Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
Allez, RTL Soir vous accompagne. 18h40, c'est l'heure. On va défaire le monde maintenant jusqu'à 19h avec vous, Cyprien Cini, et toute la Dream Team. Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. L'info autrement, avec un autre regard. Jusqu'à 19h donc, le menu Cyprien.
Ce soir, on défait le monde, vous plonge dans les coulisses de la une de Paris Match. Paparazza, coup de com', vous saurez tout de la photo d'Éric Zemmour et de sa collaboratrice. Au menu également, des bouts de tissu qui valent de l'or, une météo qui fait la quête et une traversée du désert bien volontaire. On défait le monde, la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Avec, comme chaque soir, le son du jour.
Ce soir, on vous parle de la photo, cette une de Paris Match qui fait tant causer. Elle est prise de loin, légèrement pixelisée. On y voit Éric Zemmour très proche de sa collaboratrice, même enlaçant sa collaboratrice Sarah Knafo. On a donc voulu en savoir plus sur ce qui ressemble à une paparazzade.
Et on défait le monde à enquêter. Alors cette photo, elle a été prise par Pascal Rostin, un photographe de Paris Match. C'était samedi dernier, il vous l'a confirmé, hein, Laurent.
Oui, comme beaucoup d'autres, il était accrédité pour suivre la dédicace d'Éric Zemmour à Toulon. Dans le cadre de cette signature, le polémiste devait ensuite déambuler au marché aux fleurs, mais il a annulé cette visite. Il a préféré s'offrir un bain de mer sur la plage des Sablettes à la Seyne-sur-Mer, près de Toulon. Alors le photographe de Paris Match, hein, qui guettait à proximité de l'hôtel du polémiste, m'a expliqué qu'il l'avait suivi.
Pour éviter de se faire repérer par la police qui protège Éric Zemmour, il a donc pris cette série de photos de loin, au téléobjectif. Le magazine assure que rien n'a été dealé ou arrangé, qu'il ne s'agit pas d'une campagne de communication.
Alors pour tenter de comprendre et d'en savoir plus, on a contacté un ancien photographe People, habitué à ce genre d'affaires. Aujourd'hui, il est directeur du magazine Influence, c'est Jean-Claude Elfassi. Et pour lui, c'est pas une photo arrangée.
Que ça soit pixelisé ou pas, même si on fait une fausse paparazzade, on pixelise. Hein, c'est, voilà. Mais je veux dire, pour moi, quand tu vois les photos de Paris Match, j'y crois pas, ou alors il serait montré sous son meilleur jour, les photos auraient été choisies, qu'il se montre habillé en train de se promener, où il est bien coiffé, enfin maquillé peut-être, mais à poil dans une position un peu bizarre dans la mer. Mais cette photo n'est pas esthétique. Mais là, c'est tellement désastreux au niveau communication que je n'y crois pas.
Mais si c'est une photo volée, est-ce que ce type d'opération est difficile à monter?
Alors, d'après notre ancien photographe, pas du tout.
Il était assez facile à faire, je pense. J'ai pas l'impression qu'il se cache. Ou alors, peut-être qu'il pensait que les photographes n'allaient jamais s'intéresser à lui. Tout ça, ce sont des erreurs, on va dire, des erreurs grossières pour un type qui veut être président. Parce que quand on se met à la lumière et qu'on se dit présidentiable, à ce moment-là, c'est sûr qu'on est traqué de toutes parts. C'est une erreur de débutant de penser que les paparazzi n'allaient pas s'intéresser à lui à un moment ou à un autre.
Et alors, d'après Jean-Claude Elfassi, cette photo, c'est peut-être que la première lame. Maintenant que Paris Match a ouvert les hostilités, Éric Zemmour n'en a sûrement pas fini avec des paparazzi qui vont continuer à traquer sa vie privée.
Son passé va être passé au crible. Ce qu'il fait à partir de maintenant, tout le monde va y faire attention. Surtout lui qui est très polémique. Il y a des stars qui sont aguerries au paparazzi et qui font tout un tas de stratagèmes pour ne pas qu'on sache où elles sont, ce qu'elles font, etc. Et pour larguer les paparazzi. Lui n'est pas aguerri pour ça. Il y a des agences qui vont faire attention à lui. On a vu Fillon comme il a sauté en l'air. On a vu Sarkozy aussi. C'est possible que Zemmour ait quelques problèmes aussi.
Et on rappelle qu'Éric Zemmour a déjà annoncé son intention de saisir la justice contre l'hebdomadaire Paris Match, contre Voici également, après la publication de ses photos.
Intention, effectivement. On remercie l'ex-photographe People, donc Jean-Claude Elfassi, pour ses explications.
RTL sous les radars.
Allez, tous les soirs, dans RTL Monde, on vous révèle une info qui est passée, mais alors totalement inaperçue.
Avec ce soir, une info qui concerne l'Arc de Triomphe. Vous savez, emballé, comme l'avait imaginé l'artiste Christo. Bon, on pensait avoir tout dit sur le sujet. Eh ben non, Laurent. Mais
en l'espace de quelques jours, certains ont trouvé une nouvelle manière de se faire un peu d'argent. Ils vendent un bout de tissu de l'œuvre. Alors, plusieurs annonces ont été postées ces derniers jours sur la plateforme Le Bon Coin. Elle vous propose, et c'est plutôt bien vendeur, un carré de 7 cm sur 7, du tissu recyclable, en polypropylène argent bleuté, produit rare et historique, 100% original. Les prix varient. On trouve une vente à 10 euros, 15 euros. Le record pour le moment, 50 euros.
Alors, juste là, ça veut dire que les gens, ils ont découpé les...
Voilà.
les... bout de tissu de l'œuvre.
C'est la question que je me pose aussi.
Je vous rassure, il n'y a rien d'illégal. Ce sont des personnes qui ont visité au plus près l'œuvre de Christo, des visites payantes, le coût 16 euros par personne. Ouais. Et en contrepartie, elles ont reçu un petit bout du tissu que les artistes ont utilisé pour emballer l'Arc de Triomphe. L'œuvre est donc toujours intacte, soyez rassurés.
Mais on ne sait pas si tous les bouts de tissu sur le Bon Coin viennent de l'Arc de Triomphe.
Effectivement.
Ah, il y a des faux déjà.
Je vois le mal partout. Allez, une petite pause. On continue de défaire le monde de RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Tiens, les ados, les jeunes, tendez l'oreille, on va parler manga.
On défait le monde dans RTL Soir.
L'info pour briller dans On défait le monde.
Bonne fin de journée, On défait le monde continue dans RTL Soir et la voici, la première info pour briller tout à l'heure au dîner, notamment avec vos adolescents.
Oui, la première, elle concerne donc les mangas, vous savez, ces BD japonaises. RTL vous révélait ce matin que c'était le bien culturel le plus acheté avec le chèque culture. Ben ça tombe bien, Arthur, parce que vous adorez les mangas.
Oui, j'adore ça, mais pourquoi à votre...
Quelle conviction.
Mais je me suis quand même posé la question, pourquoi l'immense majorité des mangas est en noir et blanc?
Ah bah voilà.
Bah oui, parce que produire un manga de cette manière, et ben ça coûte beaucoup moins cher et ça prend bien moins de temps que la colorisation.
En plus,
chaque manga comporte parfois des dizaines de tomes qui, eux, comptent souvent près de 200 pages.
Ouais, c'est lourd,
Ils sont publiés à un rythme très soutenu, sans parler des parutions hebdomadaires dans certaines revues. One Piece, par exemple, c'est 100 volumes en 24 ans.
100 volumes.
C'est beaucoup. D'accord. Et même s'il existe quelques mangas en couleur, le noir et blanc, c'est devenu la marque de fabrique de ces bandes dessinées japonaises. Mais pour info, il n'y a pas que les Japonais qui dessinent des mangas. Oui, vous connaissez peut-être les manfras.
Pas du tout.
Des mangas francophones, Cyprien. L'un des plus gros succès du genre, c'est Dofus, une œuvre franco-belge en 27 tomes vendue à 1 million d'exemplaires.
C'est quand même assez fascinant cet univers des mangas. Vous avez un ado.
Moi, mon fils a lu beaucoup de mangas. Il s'est un peu calmé là, mais entre 8 et 10 ans, il en a lu beaucoup. Ouais.
Vous lisez pas Captain Tsubasa, Naruto?
Non. Et Naruto, il lisait Saint Seiya aussi.
Captain Tsubasa, c'est Olivier Tom.
Oui, exactement. Ah, mais nous, on avait le dessin animé, on le lisait pas.
Vous lisez les mangas.
Merci Arthur.
Je vous en prie.
On défait le monde.
Julien Cellier, Cyprien Signy.
L'heure des coups de marteau, enfin de stylo là en l'occurrence, l'heure du jugement, chaque soir Céline Landreau désigne...
Gros budget, effet spécial.
Gros budget, oui. Désigne le winner ou le loser, le grand gagnant ou le grand perdant du jour.
Et si elle fait la pluie et le beau temps sur l'actu, ce soir, je me tourne vers vous Céline, elle nous annonce une météo plutôt maussade avec son grand perdant du jour.
Oui, avis de tempête sur Météo France. Je sais, c'est facile, notre service public de météorologie et de climatologie va mal. Vigilance orange. Oui, jusque-là, vous étiez prévenu à temps quand la météo devenait capricieuse grâce à Météo France et ses super calculateurs.
Un peu l'équivalent de 50 000 PC du commerce qu'on mettrait ensemble et qu'on ferait tourner à toute allure.
Des super calculateurs installés à Toulouse capables de réaliser 10 millions de milliards de calculs par seconde. Ça fait beaucoup de zéros. Ouais. Une science presque exacte, donc, mais tout ça, ça pourrait ne pas durer. Cette fois, le bulletin d'alerte est lancé par le sénateur Vincent Capo-Canellas chez nos confrères de BFM TV.
Météo France est en plein hiver budgétaire et cet hiver dure depuis 10 ans.
Vous l'avez, la saison qui s'énergise, l'hiver, tout ça. Bref, au-delà du jeu de mots, ça va vraiment mal.
20% de baisse du budget, les deux tiers des implantations qui ont été supprimées, et 600 personnes en moins.
Bah, vous pouvez me dire, est-ce que c'est si grave pour notre vie quotidienne?
Voilà, c'était pas trop mal ce matin. Bon, il faisait un peu frais quand même. Fallait penser à rajouter une petite laine ou une petite veste.
Oui, non, vu comme ça, pas vraiment. Le coup du pull, on peut se débrouiller. Mais quand on pense que c'est grâce à Météo France qu'on passe en vigilance canicule ou qu'on lance des alertes crues, inondations, on peut s'interroger sur l'intérêt de la réduction des coûts, alors même que les épisodes climatiques extrêmes sont de plus en plus nombreux.
Cela semble effectivement quelque peu paradoxal. Merci beaucoup, Céline. Allez, une petite pause et dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. On va parler de la grande passion de Cyprien, le golf.
Ah, j'adore.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h53, on vous souhaite une très belle fin de journée. Vous écoutez RTL et on continue de défaire le monde jusqu'à 19h avec la joyeuse bande. Fans de sport, voici une nouvelle info pour briller dans quelques minutes au dîner en famille.
Oui, on va parler golf, un sport sans hooligan, avec la fameuse...
Pour l'instant,
c'est mon édito. Avec la fameuse Ryder Cup qui démarre aujourd'hui. En fait, ce sont les 12 meilleurs joueurs américains face aux 12 meilleurs européens.
J'adore.
Il y a près d'1 milliard de téléspectateurs.
J'adore cette compétition.
Et donc Céline a quelque chose nous apprendre sur le golf, figurez-vous. Ça, c'est un peu la surprise du soir.
Ouais, le golf avec un objectif, Cyprien, ouais. Mettre en moins de coups possible la balle dans 18
oui,
trous.
Sans
mais,
oui.
Oui, mais au golf, il n'y a pas toujours eu 18 trous. Oh. Non, au départ, leur nombre pouvait varier entre 6 et 24. En fait, tout a changé en 1764, dans
souviens.
L'un des plus anciens parcours de golf, le Old Course de Saint-Andrews, ouais. En Écosse. C'est d'ailleurs là que sont définies les règles du golf.
Le Royal est ancien.
Eh bien, merci Cyprien. Eh bien, cette année-là, donc, il y avait 11 trous et les golfeurs faisaient deux fois le parcours pour arriver donc à un total de 22 trous. Mais cette année-là, certains trous ont été jugés trop proches les uns des autres. On est donc passé à 9. 2 fois 9. 18, vous me suivez. La règle s'est ensuite étendue avant de devenir donc la norme mondiale.
C'est pour ça qu'il y a 18 trous.
Et voilà.
Et voilà. Bah ça, je ne savais pas.
Vous allez pouvoir briller sur les parcours de golf. Sur les greens, comme on dit, cher Cyprien. Donc, il faut choisir, comme chaque soir, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité.
Moi, je prends Céline, direct, là, parce que les 18 trous, ça m'impressionne beaucoup.
L'une des deux infos pour briller, vous savez quoi ? Prenez Céline, moi, je prends Arthur pour les mangas, parce que je trouve ça passionnant.
Match nul. Et moi, je prends
match nul. Mais bon, là, votez.
Bon, pour Céline et Arthur.
Oh,
c'est bien. Céline, tu l'as mis vendéenne.
Julien, je vais quand même féliciter Laurent. Parce que ça fait 6 fois qu'il ne perd pas.
Oui, voilà. c'est vrai, Damien, le réalisateur.
Plus aucune info pour briller, comme ça il ne perd plus. Là, voilà, on a trouvé une solution.
Bravo
pour le réconforter.
Laurent.
Marche ou rêve ?
Allez, marche ou rêve. Tous les soirs, on vous appelle, on met en avant vos initiatives.
Et comme c'est jeudi, le jeudi c'est...
Il va y avoir du sport.
On met en valeur vos projets ou vos initiatives sportives. Avec ce soir, une sacrée traversée du désert, Laurent.
Ouais, et le mot aventurier qui prend tout son sens. Steven, 35 ans, s'est lancé comme objectif de traverser avec son vélo les 6 déserts les plus hostiles du monde sur 6 continents. Alors au-delà du défi sportif, il y a un enjeu, alerté sur le réchauffement climatique. Projet 666, c'est le nom du programme, j'imagine qu'il est prêt à vivre l'enfer. Alors Steven a terminé au début de l'été sa première étape en Namibie. Bonsoir Steven.
Bonsoir.
Vous avez parcouru plus de 4250 km en 18 jours, un seul sur votre vélo, plus de 10 heures. Racontez-nous comment s'est passée cette première épreuve.
Parfaitement, comme chaque aventure, c'est pas facile. C'est la définition même de l'aventure, d'aller chercher loin, d'aller comprendre quelque chose que je ne suis incapable de comprendre quand je reste ici, et puis d'aller montrer des univers plus ou moins hostiles. Et là, c'était le désert le plus vieux du monde, 55 millions d'années. Et je me suis exposé à des températures entre 0 la nuit et jusqu'à 55 degrés le jour au soleil.
Et alors, d'un point de vue écologique, cette première étape à travers le désert de Namibie, vous avez retenu quoi ?
En Namibie, j'ai pu comprendre ce qu'était la vie des animaux du désert, parce que c'était l'objectif premier, c'était la thématique première de ce désert. Il y en aura d'autres, des déserts froids, des déserts chauds. On comprend la valeur des choses, notamment de l'eau. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument normal d'avoir de l'eau ici en Occident et notamment en France. Et je pense que ça va devenir une denrée rare, comme j'ai pu le connaître dans d'autres contrées à travers le monde. Et ouais, ça bouge petit à petit, hein. Bougeons ensemble, disons.
Et après la Namibie, Steven, quel est le programme pour vous ?
Le rêve absolu, c'était de faire l'Antarctique, donc le plus grand désert du monde, hein, le plus grand continent d'ailleurs.
Il faut mettre des pneus neige.
Exactement, avec des gros de la taille d'une moto, en fait des 5 pouces, donc ça fait des gros. Ouais, c'est comme une moto mais sans moteur, c'est moi le moteur. Et l'idée, c'était de faire 1000 miles en Antarctique pour montrer la difficulté de l'homme, montrer aussi un univers qui est en train de fondre à vue d'œil, parce que c'est la vérité, c'est des litres d'eau qui se déversent aujourd'hui. Et voilà, j'avais envie de montrer ça. Et là, ce sera plutôt le désert de Gobi. L'idée, c'est de partir de Sibérie pour aller jusqu'à l'Himalaya. En fait, ça fait 5000 km et je pense un peu plus de 100 000 mètres de dénivelé positif. Donc un peu plus que le Tour de France. Montrer autre chose, quoi. Montrer la diversité de paysages, de températures, d'univers et l'adaptation de peuples nomades, parce que c'est les derniers peuples nomades du monde et les gens qui ont réussi à s'adapter à cette chaleur ou au froid, donc voilà.
Et c'est prévu pour quand ça ?
Je l'espère début d'année prochaine, du coup janvier ou février prochain.
On suivra
on
ça.
Suivra ça.
Bah, si vous voulez venir, vous pouvez. Hein.
Non, de suivre de
c'est
loin, je pensais. Plutôt de loin.
Non,
si
voilà, on vient
pas.
Pour regarder, il faudra demander à RTL quoi, l'autorisation.
Bah, il y a la moto apparemment qui doit venir avec moi.
Traverser avec son vélo les 6 déserts les plus hostiles du monde, c'est votre projet, Steven. On prendra de vos nouvelles dans les semaines à venir. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci, Steven. Et si vous voulez, comme Steven, que votre projet projet, votre initiative, vos parcours de vie soient mis en valeur sur cette antenne sur RTL dans Défait le Monde. C'est assez simple, il suffit de nous contacter.
Absolument. Alors, il y a la page Facebook ou le compte Twitter dont Défait le Monde. Il y a Laurent Tessier qui récupère tous vos appels, enfin tous vos messages.
Tous
et
messages.
Puis vos appels, on laisse pas le numéro de téléphone, il veut pas.
Exactement. Non,
pas encore.
Pas le numéro personnel. Pas le numéro personnel. On vous attend, les amis, en tout cas, dans l'émission, dans RTL Soir. L'équipe dont Défait le Monde, on vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Et on rappelle que demain, c'est vendredi. Donc le vendredi à 18h40, on refait nos régions. On sera au plus près de chez vous, de vos combats, de nos terroirs.
Et à lundi.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.